Les enfants de Chronos.
Bonjour à tous, je suis Germain Cuvillier du service départemental d'archéologie de l'Oise. Bienvenue dans notre troisième épisode consacré au site de Champlieu. Pour ceux qui n'ont pas entendu les premiers épisodes consacrés au lieu, sachez que nous nous trouvons au niveau du hameau de Champlieu, surtout connu d'une part pour ses ruines romaines et d'autre part pour son église en ruine. Ce hameau est situé au sud de la forêt de Compiègne, sur le plateau qui domine la vallée de l'Automne. Ce hameau fait désormais partie de la commune d'Orhuy. Aujourd'hui, j'aimerais évoquer avec vous l'histoire d'un site un peu particulier. La fabrication d'une fausse catacombe à Champlieu. Alors on trouve en effet à Champlieu, non loin de l'église Notre-Dame, dont j'ai déjà parlé, une cave creusée dans le sol calcaire du plateau. Celle-ci est composée de plusieurs pièces. La première, couverte d'une voûte en berceau, débouche sur un escalier coudé descendant à une galerie rectiligne longue de 12 mètres. Elle a pour ciel le banc de roche étayé par 5 arcs, tandis que les parois correspondent à des murs de pierre soigneusement appareillés. Une petite cavité de 4 à 5 mètres de large, taillée dans la roche, termine la cave. Cette cave fut l'objet d'une incroyable fumisterie orchestrée par Madame Osselin, rentière à Orhuy au début du XXe siècle. En 1909, cette dernière racheta une propriété comprenant une chaumière et un terrain dans lequel se trouvait la cave, en partie effondrée, victime d'un éboulement, suite à un violent orage, vraisemblablement le 15 août 1895. Elle fit dégager et restaurer la cave et la transforma en une fausse catacombe paléo-chrétienne qu'elle appelait le Lucernaire, c'est-à-dire le lieu où les premiers chrétiens célébraient leurs offices. Alors pour la mise en scène, Madame Osselin récupéra de nombreux objets d'époques différentes, des silex taillés, des ossements humains et d'animaux, comme ceux d'un improbable ours des cavernes, des fragments de blocs sculptés, des sarcophages en pierre, des céramiques variées, des monnaies romaines et des fibules. Autant d'objets qu'elle dit avoir trouvés lors de fouilles réalisées dans la cave. L'incroyable est qu'elle fut confortée dans sa supercherie par des érudits comme le spéléologue Édouard Alfred Martel et l'abbé Narbet, qui interprétèrent le site comme étant une cavité naturelle, occupée depuis la préhistoire, puis transformée en catacombe paléochrétienne, comme semblaient l'indiquer les nombreux pseudo-symboles gravés sur les murs de la cave, dont les plus évocateurs sont des monogrammes du Christ sous forme de croix variées, des poissons, une grande croix, deux plats représentant l'un la multiplication des pains, l'autre celle des poissons. Ainsi, Madame Osselin aménagea le site comme un véritable petit musée, exposant en produit d'appel certains objets et quelques sarcophages en pierre à la surface, et proposant aux touristes, notamment parisiens, de descendre dans la catacombe pour la modique somme de 20 sous, c'est-à-dire un ancien franc, et qui correspond, d'après le convertisseur de l'INSEE, qui tient compte de l'inflation, à environ 4 euros aujourd'hui. Certaines cartes postales d'époque montrent l'intérieur de la cave, ornée de graffitis, et l'aspect du petit musée à l'extérieur, composé de mobilier archéologique hétéroclite. Le site bénéficia également d'une certaine publicité dans des journaux locaux et parisiens. Le désir de croire au miracle archéologique fut tel que, quand M. Breton, gardien à l'époque des ruines gallo-romaines voisines, dénonça en 1910 la supercherie, Madame Osselin le traîna en justice à Crépy et l'honnête gardien fut condamné à lui payer des dommages et intérêts. Mieux encore, le juge, reconnaissant la réalité historique de la chapelle souterraine par sa décision, en demanda le classement. Néanmoins, à partir de cette affaire, certains journalistes émirent des doutes sur l'authenticité de la catacombe. D'autres dénoncèrent clairement la supercherie et l'injustice du verdict qui avait condamné le gardien des ruines de Champlieu. Il faut dire que Madame Osselin était également connue pour avoir fait croire que sa petite fille, la petite Suzanne Bertin, voyait régulièrement Jeanne d'Arc au pied d'un orme situé dans le jardin de leur résidence principale à Orhuy. Localement, la supercherie avait été rapidement dénoncée, mais elle avait tout de même réussi à connaître une certaine popularité dans les milieux parisiens. Quelques années plus tard, en 1925, Madame Osselin transforma le site en opération immobilière et vendit la propriété sur laquelle se trouvait la cave au collectionneur Eugène Barbier, déjà propriétaire à l'époque du château de Vais. Monsieur Barbier, dans la publication d'une nouvelle brochure vendue aux visiteurs, fit également de cette catacombe paléochrétienne un lieu dédié au dieu Mithra, en s'appuyant sur des interprétations erronées de gravures déjà fausses. Sachez que le dieu Mithra était une divinité orientale très populaire dans les armées romaines, et une divinité dont le culte était parfois installé à l'intérieur de grottes naturelles. Monsieur Barbier fit réaliser quelques sondages, mais ne fit aucune découverte archéologique. Le site resta ouvert au public et sa garde fut confiée aux frères Poirier, menuisier et ébéniste. En fait, il faut attendre les années 70 et l'article de Bernard Ancien, qui publie dans les cahiers archéologiques de Picardie, pour que la supercherie soit clairement dévoilée. Il démontre, par l'étude des marques d'appareillage et d'outils que l'on retrouve à la surface des pierres, que cette cave a été creusée et aménagée au 14e ou au 15e siècle. Les fameux graffitis évoqués se trouvant sur ces murs ne pouvaient donc pas dater de l'époque des premiers chrétiens. D'autres faits établissent également la supercherie. Nous avons récemment fait examiner les photos des ossements du soi-disant ours des cavernes, qui figurent dans la publication de l'abbé d'Arbais. Nous les avons fait examiner par un archéologue de Compiègne, spécialiste des ossements d'animaux. C'est ce qu'on appelle un archéozoologue. Pour ce dernier, il ne peut s'agir des restes d'un ours. Les ossements sont plus vraisemblablement ceux d'un cheval. Ailleurs, les photos interprétées comme des objets pétrifiés correspondent à des fossiles qui composent une partie des bancs calcaires locaux. Et certaines céramiques, dites gauloises, sont en réalité médiévales. Aujourd'hui, cette cave reste néanmoins inscrite sur la liste des monuments historiques, sous l'appellation floue de souterrain de Chanlieu. Et ce, depuis 1965. Mais son accès est fermé au public. Ce récit peut paraître anecdotique, mais il me paraît particulièrement révélateur de la magie de certains comportements humains et du besoin d'une rigueur scientifique lorsqu'il est question d'histoire ou d'archéologie. Par ailleurs, il est remarquable de voir que ce petit hameau compte deux sites classés monuments historiques, donc les ruines romaines de Chanlieu et l'église de Chanlieu, dont nous avons déjà parlé dans les épisodes précédents, mais également un site inscrit, cette cave. À ce propos, il est surprenant de constater à quel point le hameau de Chanlieu et plus largement le territoire de la commune de Rouy est riche en vestiges. Vous en découvrirez certains dans les prochains épisodes de l'émission Les Enfants Chronos consacrés à Chanlieu. Voilà, c'était l'épisode consacré à l'affaire de la fosse catacombe. Vous retrouverez sur le site internet de RVM notamment le lien vous permettant de lire l'article de Bernard Lancien qui présente cette cave et son destin tout particulier. Je reste également par ailleurs intéressé par toute personne ayant des informations concernant la famille Osselin. Vous trouverez mes coordonnées via le site internet de l'émission. Je vous rappelle que tous les épisodes de l'émission, Les Enfants de Chronos, peuvent être écoutés à partir de la page internet consacrée à l'émission sur le site de RVM.